SBS Radio.
SBS French. Mardi, jeudi, samedi et dimanche, à 13h ou à tout moment, en ligne.
L'auteur de romans graphiques primé Clément Balou était destiné à être un conteur né d'une mère française et d'un père vietnamien. Il a passé une grande partie de son enfance à voyager entre l'Europe, la Polynésie et l'Amérique du Sud. Et après avoir étudié les beaux-arts dans la capitale de la bande dessinée, Angoulême, ainsi qu'à Hanoï, la démarche artistique de Clément Balou est unique et tire largement parti de ses premières expériences ainsi que de ses propres racines. Son travail est une combinaison saisissante de réflexions perspicaces et puissantes sur les questions vietnamiennes dans une forme d'art qui est sans équivoque française, la bande dessinée. Clément était la semaine dernière à l'Alliance française de Melbourne. Il est avec nous sur SBS French pour nous parler de son travail. Clément, bonjour.
Bonjour, bonjour aux auditeurs.
Et merci d'être avec nous sur SBS en français.
Merci de me recevoir.
Alors, toute première question, vous étiez à l'Alliance française de Melbourne la semaine dernière, le 17 septembre exactement, et puis celle de Canberra lundi dernier. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous faites en Australie et puis pourquoi vous êtes venu présenter votre travail dans les Alliances françaises?
Alors tout d'abord, il faut vraiment que je remercie les Alliances françaises qui m'ont accueilli et soutenu, car en vérité, je suis en Australie pour faire des recherches sur mon prochain album qui a trait à la diaspora vietnamienne, très nombreuse en Australie, je crois autour de 200 000 personnes, qui est venue principalement lors de l'épisode des Bot People, donc à la fin des années 70-80. Et quand j'étais donc en train de présenter mon travail, mon travail de recherche et aussi les albums déjà parus sur ce thème de la diaspora vietnamienne à travers le monde, notamment en France, j'ai eu le plaisir d'avoir déjà un nombreux public qui est venu aux Alliances françaises, à la fois à Melbourne, à la fois à Canberra. Et dans ce public, il y avait des Australiens, des Français, des Vietnamiens et des Vietnamiens francophiles. Donc il y avait vraiment un beau mélange, ça faisait vraiment plaisir et puis j'ai reçu un très bel accueil, très enthousiaste. Donc je me sens vraiment chanceux.
Mmh. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous? Quand est-ce que la bande dessinée est devenue votre passion et votre métier?
Alors la bande dessinée, en fait, elle a toujours été là. Tout petit, je dessinais. Tout petit, il y avait des bandes dessinées autour de moi dans la maison. Les BD de ma grande sœur, mais les BD de mes parents aussi. Comme dans tout foyer français qui se respecte, on avait les classiques franco-belges entre Astérix et Tintin. Et puis là où d'autres enfants s'intéressent à des choses plus sérieuses, moi je suis resté dans la bande dessinée. Puis j'ai découvert au fur et à mesure que la bande dessinée pouvait porter des messages assez forts et puis avoir un propos plus adulte. Et quand j'ai dû faire le choix d'une vie d'adulte, justement, j'ai choisi des études qui m'amenaient vers la bande dessinée, vers le roman graphique. Et ça, c'est, alors, j'ai aussi eu de la chance parce que le roman graphique s'est développé au moment où j'étais étudiant, quand c'était le tournant des années 90-2000. Et donc le fait est que je suis arrivé avec des projets qui correspondaient, donc des projets sur une BD réaliste, même plus, enfin pas vraiment réaliste, mais une BD qui parle du réel, donc qui parle de des expériences que j'avais pu avoir, des témoignages que j'avais pu recueillir. Donc une sorte de BD de reportage. Et quand je suis arrivé avec ces projets-là, ben les éditeurs étaient prêts à s'engager dans cette aventure. Et puis il y a eu un public aussi qui s'est développé depuis les années 2000 pour ce genre de littérature graphique. Et j'ai pu comme ça commencer à être vraiment un professionnel de BD en 2004, donc avec mon premier album qui est une sorte de carnet de voyage sur la ville de Hanoï, donc ça s'appelle Un automne à Hanoï. Mm-hmm. Et puis en 2006 et 2011, en fait il y a deux dates parce que j'ai commencé un projet sur la mémoire des Vietnamiens en France, donc c'est la série Mémoire de Viet Q, donc c'est la série qui m'amène en Australie. Mmh. Et la mémoire de Viet Q, c'est essayer de collecter des témoignages de gens qui sont partis pendant les périodes de crise qu'a connues l'Indochine, puis le Vietnam pendant les guerres de fin du XXe siècle, et puis même le Vietnam contemporain. Donc j'essaie de savoir comment, pourquoi des gens à un moment sont obligés de partir, de s'exiler de leur pays, de migrer vers un pays hôte, et comment ça se passe une fois dans le pays hôte. Donc ce que j'expliquais aux Alliances françaises, c'est que finalement, la recherche des témoins de cette histoire, je me suis baladé en France, je suis allé aussi aux États-Unis, j'ai passé plusieurs mois aux États-Unis pour trouver des témoignages qui soient révélateurs de la situation. Je suis aussi allé à Taïwan. Et je me suis rendu j'ai pu venir en Australie. Et donc voilà, c'est comme une nation, cette diaspora vietnamienne, c'est comme une nation en dehors du pays. Donc il y a à peu près, je ne suis pas tout à fait sûr des chiffres, parce qu'ils ont tendance à bouger, tous les pays n'ont pas les mêmes recensements, mais il y aurait 2 millions de Vietnamiens en dehors des frontières du Vietnam. Et la majorité de ces Vietnamiens ont été poussés hors du pays par la guerre ou par l'installation du régime communiste qui était très dur dans les premières années. Donc voilà, c'est ces histoires que j'explore, qui sont souvent des histoires de survie, des histoires vraiment passionnantes, des histoires parfois édifiantes. Qui me remue moi, parce que en fait je suis issu de cette histoire, car mon père est quelqu'un qui est parti de Saïgon à la fin des années 60 pour trouver refuge en France.
Donc beaucoup d'influences de voyage, de mélange. Vos inspirations tournent beaucoup entre cette situation vietnamienne avec des relations aussi françaises.
Oui, alors en fait, ce qui se passe, c'est que quand je parle d'une diaspora en France, je parle aussi de la société française dans laquelle j'ai grandi. C'est-à-dire que c'est pas un regard forcément communautariste, je ne sais pas si le mot existe d'ailleurs, mais c'est plutôt en fait une exploration de comment les gens vivent dans une société ou dans l'autre. Le deuxième album qui se passe aux États-Unis, qui s'appelle Little Saigon, parle beaucoup en fait des États-Unis, parle beaucoup de l'histoire américaine, des villes américaines, et en fait ce sont des mélanges, hein, il y a des métissages. Alors je ne parle pas dans mon travail uniquement de cette relation France-Vietnam ou Vietnam-États-Unis. Je vais faire aussi d'autres types de BD reportages qui vont m'amener à poser mon regard sur d'autres situations. Donc j'ai travaillé un peu sur le Moyen-Orient, c'est un travail que je continue aussi. Je travaille pas mal sur l'Asie, donc j'ai pu faire des petits reportages en bande dessinée sur Macao, sur Hong Kong, sur l'Indonésie. Là, il y a un livre qui s'appelle Comicus Compilasi, donc qui est sur l'Indonésie. On l'a fait avec trois autres auteurs, des camarades. Donc voilà, mon inspiration, c'est vrai qu'elle est beaucoup tournée sur le monde, mais c'est aussi, je pense, très lié à ce qu'on vit en France. C'est un peu prendre un regard extérieur, enfin se mettre à l'extérieur pour voir ce qu'on vit tous les jours. Enfin, je le pense, je l'idéalise un peu comme ça, mais c'est vrai que c'est pas. Je pense que tout est lié en fait. Toute la planète est connectée, est liée. Et quand il y a quelque chose qui se passe à l'autre bout de la planète, ça peut être une conséquence, ou du moins ça peut être un lien avec ce qu'on vit tous les jours chez nous, sans forcément bouger ou voyager. Donc il y a cette idée qu'on est dans une grande période d'échange, de métissage, et que parfois prendre un pas de côté et regarder peut expliquer ou éclairer la situation qu'on vit. Voilà, c'est un peu ambitieux, mais dans le fond, voilà, c'est ce que j'imagine.
Vous parlez de métissage, vous habitez à Marseille. C'est une ville où le multiculturalisme est très présent. Est-ce que ça vous inspire également ?
Oui, alors par exemple, je me souviens de l'époque des printemps arabes, En étant à Marseille, je pense que on peut être un témoin privilégié de ce qui se passe tout autour de la Méditerranée. Il y a des échos, donc on n'est pas directement confronté, mais il y a des échos. Il y a quand il y a des manifestations dans par exemple en Algérie, eh ben on va avoir des gens qui sont à Marseille, qui sont directement impactés parce que leur famille est là-bas, donc il y a un lien très fort. Ou même il y a des gens que j'ai croisés aussi à Marseille qui étaient partis, qui étaient venus trouver refuge à Marseille pour échapper aux manifestations et aux grabuges générés par les printemps arabes qui peuvent dégénérer, comme on l'a vu en Syrie ou en Libye. Donc il y a cette idée que Marseille, c'est toujours une espèce de porte vers l'Afrique ou vers l'Orient. Marseille a peut-être un peu perdu de sa superbe, quoi qu'elle essaye de regagner des lettres de noblesse avec les nouveaux plans urbains. Mmh. Mais il y a toujours cette connexion qui est très forte avec un ailleurs, un étranger qui est juste là, juste à côté. Donc Marseille, c'est une situation privilégiée. Et puis Marseille, c'est vrai que, alors certains le disent d'une manière plutôt insultante en disant que c'est pas vraiment la France, mais moi je le dis, mais en pensant que c'est intéressant, que c'est une France un peu différente des restes des autres villes françaises. Donc oui, il y a une ambiance particulière à Marseille qui me permet aussi de rester comme ça, voilà, à l'écoute du monde méditerranéen, en tout cas.
Alors, est-ce que vous avez un site internet où on peut trouver vos bandes dessinées, ou alors est-ce qu'elles sont vendues en librairie également ?
Alors, en France et dans les départements d'outre-mer, vous allez trouver... Enfin, les départements d'outre-mer sont la France, mais je veux dire, entre la métropole et les dom-tom, vous pouvez trouver dans toute librairie, hein, c'est largement distribué. Aux États-Unis et donc dans le monde anglophone, c'est la maison d'édition Life Drone qui distribue mes bouquins, en tout cas ceux sur ceux qui s'appellent Vietnamese Memories. C'est une édition américaine, ça vient de Los Angeles. Donc ça, en Australie, je pense qu'on peut les trouver aussi dans les librairies, librairies BD, on peut les commander. Et puis sinon, les géants Amazon, Fishpound et autres sites internet les ont aussi en disponibilité. Mm-hmm. Donc voilà, c'est pas normalement en tapant mon nom, Clément Balou, graphic novel ou comic book, on
devrait tomber dessus.
Les commander.
Oui. Voilà. Alors, quels sont vos futurs projets ?
Ah ben alors, il y a ce projet sur l'Australie qui m'occupe actuellement beaucoup. Mm-hmm. Donc je suis allé, comme on l'évoquait, à Melbourne, Canberra, et maintenant je suis à Sydney pour essayer de comprendre ce qu'a pu être la migration vietnamienne ici. Alors il y a des histoires assez incroyables, parce que il y a eu une période économique dure pour les réfugiés vietnamiens, et donc ça a entraîné une certaine criminalité qui a focalisé l'attention des médias. Donc il y avait une très mauvaise réputation des Vietnamiens, alors qui a changé aujourd'hui, puisque avec le bon développement économique des communautés vietnamiennes, mmh. sont plutôt des communautés valorisées, mais on me dit qu'il y a 20 ans de cela, il y avait des discours politiques assez haineux, anti-vietnamiens, que les gens avaient peur, enfin, voilà, donc il y a des moments assez forts, et puis il y a aussi des moments beaux, où je vois il y a des temples vietnamiens qui sont construits, et il y a une espèce de culture qui fleurit avec des gens très très engagés. Donc il y a vraiment des épisodes intéressants à raconter. Donc là je me focalise sur ces recherches. Et puis de retour à Marseille, j'ai aussi projet très important.
Oui. Alors parfait, comme ça on garde un peu le mystère pendant les deux prochaines minutes, parce que j'ai une question pour revenir rapidement au fait que vous collectiez les témoignages des différentes personnes vietnamiennes qui font partie en fait de la diaspora, que ce soit en France, aux États-Unis, en Australie, à Taïwan, là où vous avez voyagé. Aujourd'hui aussi, il y a une seconde génération de Vietnamiens qui peut-être ne parlent pas la même langue, qui viennent de cette diaspora, ou en tout cas leurs parents, leurs grands-parents. Est-ce que vous trouvez des histoires similaires ?
Tout à fait. C'est super intéressant de parler avec ce qu'on appelle la seconde génération. Bon, c'est pas très joli, mais...
Pour
dire qu'ils sont nés et grandis soit en France, soit aux États-Unis, soit en Australie. Et c'est très intéressant leur vision parce que certains étaient tout jeunes enfants lorsqu'ils sont partis. Donc en Australie, beaucoup étaient dans des conditions terribles. Et les fameux boat people hein, qui risquaient leur vie. Hein. Faut se rappeler que des centaines de milliers de personnes sont mortes en mer en essayant de fuir le Vietnam. Donc c'est des épisodes vraiment de tragiques. Et donc il y en a qui étaient tout jeunes enfants, donc ils ont des espèces de bribes de souvenirs. Et puis après ils se sont construits en fait là en Australie, si on parle du sujet sur lequel je travaille en ce moment. Et puis d'autres sont nés ici, mais tous portent quelque chose de la culture vietnamienne, quelque chose de cette histoire terrible. Et certains vont justement essayer de se la réapproprier, de rechercher ce qui a pu se passer. Les parents ne sont pas toujours disposés à parler de ce qu'ils ont vécu. Donc il y a un voile de mystère. Donc il y a une problématique, il y a une tension quand même assez forte chez des gens qui sont devenus avec le temps, là, qui sont aujourd'hui des jeunes hommes, des jeunes femmes, ou qui même ont eux-mêmes de très jeunes enfants et ils se posent la question du legs. Qu'est-ce qu'ils vont récupérer de l'histoire de leurs parents? Qu'est-ce qu'ils vont léguer à leurs propres enfants? Donc il y a vraiment des choses très intéressantes. Alors pour l'instant, je suis en train de collecter, mais je peux vous dire qu'il y a des réflexions vraiment très fortes et notamment il y a des artistes aussi de cette seconde génération qui s'approprient le sujet, qui vont faire des œuvres d'art contemporaines comme Fongo, qui a été exposé à Sydney et à Melbourne dans de prestigieux musées. Il y a des écrivains aussi de la jeune génération qui se posent des questions, qui se posent la question des fantômes finalement, donc des fantômes au sens premier et au second degré, donc les fantômes de cette histoire. Donc c'est vraiment passionnant et je suis en train de découvrir tout ça, en tout cas par leurs yeux, par leurs mots.
Alors merci beaucoup. Et puis vous alliez parler d'un autre projet, de quelque chose qui allait se passer à Marseille.
Ah oui, alors c'est un projet qui est déjà commencé depuis 5 ans, à vrai dire. C'est que j'ai eu la chance avec d'autres camarades auteurs de bande dessinée de pouvoir créer au sein d'une école d'art, donc l'école Axe Sud, groupe de Condé à Marseille. Donc c'est une école d'art qui initialement est plutôt basée sur le design, sur les arts graphiques et la communication. Et on a eu la chance avec un petit groupe de camarades de pouvoir créer une section de bande dessinée d'illustration, donc vraiment ce qui nous tient à cœur. Et donc j'en suis cette année le coordinateur. Donc l'idée est de faire prospérer l'enseignement, la pédagogie autour de l'illustration, de la bande dessinée, du roman graphique, donc dans une école d'art. Donc c'est vraiment une grande chance parce que voilà, on nous fait confiance pour passer notre pratique, notre passion à des jeunes, voilà, qui sortent du bac et qui ont envie d'être voilà la prochaine génération d'auteurs. Donc je me moi-même je me sens assez jeune encore, mais voilà, j'ai cette chance de pouvoir communiquer avec eux, avec ces étudiants, et puis on fait vraiment de très beaux projets. On a des projets déjà qui nous pousse aussi vers l'international. Donc voilà, c'est quelque chose qui est en cours et qui occupe pas mal, qui m'occupe quand même pas mal, parce que ça prend du temps pour mettre au point un programme pédagogique cohérent et contemporain sur la bande dessinée.
Clément Balou, auteur talentueux de bande dessinée, il est avec nous sur les ondes de SBS en français pour nous parler de son travail, son parcours, ses inspirations. Merci Clément et à bientôt.
Merci beaucoup et au plaisir de vous rencontrer autour d'une signature de bande dessinée.
Choisissez sbs.com.au/french comme page d'accueil de votre navigateur Internet. Retrouvez les dernières informations et actualités, participez à nos sondages et contactez-nous. sbs.com.au/french. sbs.com.au